Bonjour.
Bonjour.
Belle introduction, hein? Heureux ou persécuté. Nous sommes difficiles d'ailleurs à aborder. Hein? Heureux êtes-vous si vous êtes persécuté? Ça ne correspond pas au sentiment, à l'émotion humaine quand on est victime de quelque chose, que ce soit effectivement d'une calomnie, d'une médisance, que ce soit d'une violence ou quoi que ce soit. C'est difficile de se dire, de se considérer être heureux. Au mois d'avril dernier, j'ai eu la bénédiction de partir au Sahel. Nigeria, pointe nord du Cameroun, Tchad, Niger. C'est un peu la localisation, sans pouvoir être trop précis avec vous, de l'endroit où j'étais. J'étais à 30-40 km de Boko Haram. Boko Haram, dont l'épicentre se situe dans l'état du Borno, hein, complètement au nord-est du Nigeria. C'est un petit peu l'Alsace-Lorraine là-bas, situé géographiquement. Où est né Boko Haram et où sévit Boko Haram, Niger, point nord du Cameroun, jusqu'au Tchad. Nous avons rencontré là-bas d'innombrables victimes de Boko Haram, beaucoup de femmes. Bien évidemment, nous avons rencontré un frère qui a été victime d'une mine antipersonnelle qui s'est fait couper la jambe. Nous l'avons rencontré à l'hôpital, nous l'avons encouragé, nous avons prié pour lui, nous l'avons soutenu. J'ai promis à cet homme que les églises en France que je rencontrerai prieraient pour lui, on pourra prier pour lui. Tout simplement, aujourd'hui, Boko Haram installe des mines antipersonnelles. Avant, il ne le faisait pas, il le faisait pour les véhicules lourds. Puis maintenant, il les fait pour piéger les chrétiens qui iraient se rendre dans les églises ou dans certains villages. En l'occurrence, ce frère avait entendu parler d'une attaque d'un village chrétien par Boko Haram. Et lui et un frère en Christ ont voulu aller porter assistance aux personnes, principalement aux femmes, dans ce village. Et ils sont tombés sur cette mine antipersonnelle qui a tué notre frère et qui a supprimé la jambe de ce frère que nous avons rencontré à l'hôpital. Voilà, la situation est extrêmement compliquée. Quand le Nigeria, quand Boko Haram attaque, font des attaques de villages, et une des premières choses qu'ils font, c'est que systématiquement, ils cherchent à tuer les hommes, les pères de famille. Alors dans ces villages que nous avons rencontrés, nous avons rencontré des hommes qui font ce qu'on appelle des milices de surveillance en pleine nuit, où ils se mettent sur les montagnes, aux abords des villages, et surveillent s'il n'y a pas des intrusions de groupes armés. Et ce témoignage fou d'un frère qui disait « on est là avec des lampes torches ». Et un jour j'ai entendu du bruit sur cette montagne, et quand j'ai basculé ma lampe torche, je suis tombé sur un homme armé qui était couché. Et j'ai juste éteint ma lampe torche que des balles ont sifflé à côté de moi et j'ai dû fuir. Automatiquement, quand ces milices donnent l'alerte, les hommes dans les villages sortent et s'en vont des villages. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants, ce n'est pas de la lâcheté, je vais vous expliquer pourquoi, et ils fuient le plus vite possible. Les pasteurs sont systématiquement ciblés, ainsi que leurs épouses. Mais les hommes aussi sont systématiquement assassinés s'ils sont pris. Boko Haram débarque dans ces villages, prennent les femmes mûres, les mamans, celles qui sont en âge d'avoir des enfants, elles ne risquent rien. Si ce sont des mamans, Boko Haram, les soldats ont eu des mamans, donc ils respectent les mamans. C'est, on va dire, peut-être le seul code moral qu'ils puissent avoir. Et il ne leur fera rien à condition que ces mamans coopèrent à poser, à répondre aux questions. Où est ton mari? Il est parti dans la montagne. Dans quelle direction il est parti? Il est parti là-bas. Les hommes de Boko Haram vont essayer de le rattraper. Parfois, ils y arrivent. Peu de fois, c'est vrai. Et des fois, ils n'y arrivent pas, tant mieux. Et puis, à partir de ce moment-là, Boko Haram va piller le village en question, récupérer les biens. Et se retrouve avec des sacs, se retrouve avec un lot incroyable de biens matériels. Et il faut les mettre dans les camions, et parfois il faut les prendre à la main, mais il n'y a pas assez de soldats. Du coup, on kidnappe les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, qui ne sont pas des adultes, qui ne sont pas des mamans pour les jeunes filles, et ils aident au transport de ces biens matériels jusqu'au QG de Boko Haram. Les jeunes garçons grandiront dans la foi islamique dans laquelle ils seront très susceptibles de devenir un jour des combattants de Boko Haram, abandonnant leur ancienne vie, et les jeunes filles seront mariées de force, de gré ou de force, à des commandants de Boko Haram. Voilà. Alors, je le mets ici, hein, certaines mamans ont tout perdu sauf l'amertume, pas que. J'ai rencontré beaucoup de mamans qui se sont relevées. Nous avons des projets là-bas, qu'on appelle les trois piliers de la restauration, traitement du traumatisme, formation du discipulat, pour leur apprendre à redevenir des disciples de Christ, connaître ces notions de souffrance. Hein. Jésus n'a pas dit que nous aurions une vie tranquille. Il a dit que nous aurions la paix. Il n'a pas dit que nous aurions une vie tranquille. Et ensuite, nous leur redonnons une activité pour qu'elles puissent produire, qu'elles puissent se trouver de la valeur en disant, voilà, je ne suis pas une moins que rien, je suis capable de produire, d'avoir un lopin de terre, de mettre des graines, de produire, d'aller sur le marché, de vendre, pour retrouver de la valeur. C'est ce qu'on appelle les trois piliers de la restauration. Mais il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont affligés par des maux, et c'est tenace. C'est le cas de Louise que nous avons rencontrée. Louise était une jeune fille qui n'était pas une maman. Mais elle est passée entre les mailles du filet, si je puis dire. Elle s'est cachée sous un vide sanitaire de sa maison, probablement. Elle nous dit qu'elle n'a pas vu de ses yeux vus, mais elle a entendu. Et vous savez, psychologiquement, dans l'âme, quand vous entendez des choses, des tirs, des cris, qu'est-ce que fait votre cerveau, hein, votre cognitif? Automatiquement, il s'imagine des scènes. Il s'imagine l'horreur des scènes. Il s'émeut, il se met en effroi de ce qu'il entend. Et c'est, je crois, même encore pire que de voir. La vue est la confirmation de ce qu'on entend. Mais entendre, c'est toute une imagination qui travaille et qui va rester dans l'âme. Louis parler un dialecte, donc nous avions une traduction avec les équipières qui étaient avec nous, et Louise ne nous regardait pas. Elle était le coude posé sur la table, mais les mains, et ne nous regardait absolument pas de cette manière-là. On sentait qu'il y avait un poids, quelque chose. Elle n'osait pas nous regarder. Elle voulait bien, elle acceptait peut-être à contre-cœur de témoigner, mais elle n'osait nous regarder. Peut-être avait-elle honte. On sentait qu'elle balbutiait dans son témoignage, on a senti beaucoup d'émotions, et je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on arrête les questions. Plus on pose des questions, plus ça devient difficile dans ses réponses, et on sent qu'elle se ferme. Je n'ai pas osé dire aux équipiers qu'on puisse arrêter, pensant qu'elle-même sentait mieux la situation que moi. Je ne suis pas africaine. Et puis, ce que je redoutais est arrivé. Elle se mit à pleurer à sanglots. Ce fut un moment terrible d'émotion et de réalisme de la souffrance et de l'amertume dans le cœur de cette jeune fille. Et on n'a pas pu continuer l'interview. Il y a l'interrogatoire, elle n'était pas forcée, bien évidemment. Waouh! Elle est passée entre les mains du film. Elle aurait dû devenir, elle aurait pu devenir une épouse Boko Haram. Et je crois qu'elle réalise ô combien ce qu'elle a entendu et ce dont elle a été échappée est complexe. Nous avons besoin de prier pour ces personnes-là. Je vous rappelle, dans ma mémoire encore, Ayuba, qui a perdu son papa et qui un jour, dans son village, une fois qu'ils ont assassiné son père, a vu une liste de noms que Boko Haram voulait retrouver. Il y avait son nom, Ayuba. C'était bien lui avec son nom de famille. Et il a su que Boko Haram allait revenir pour essayer de l'assassiner. Il a pris ses affaires et il a fui. Il était rempli de colère, rempli d'amertume. Il avait envie de se venger. Il savait comment trouver Boko Haram et savait comment peut-être attraper certains de ce groupe. Il voulait tuer, rempli de colère, d'amertume, un petit peu comme Loïs. Le choix des plus humains se tend vers la vengeance, se tend vers cette attitude de substanter son amertume, substanter sa colère. C'est très humain. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis que l'humanité existe, l'homme n'a su faire que ça, pratiquement. Je prends, je renvoie. C'est bien fait pour toi. Et etc. Nous allons voir, dans ce passage biblique que nous allons méditer, ce thème de l'amertume à la joie. Heureux, vous êtes persécutés. Vous êtes persécutés, mais vous êtes heureux. De l'amertume à la joie. Je prends à témoin ce passage de la Bible dans 1 Samuel que vous avez ici. Donc je lis avec vous. Hein. David dit à lui-même, un jour, donc le roi David qui n'est pas encore roi, je périrai un jour par la main de Saül, de Saul, pardon, de Saül, excuse-moi. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Waouh! David, qui est poursuivi, persécuté, se dit, il vaut mieux que j'aille chez les ennemis d'Israël, chez les Philistins, je serai plus en sécurité que si je reste dans le pays. Il a un niveau de désarroi, de découragement qui fait que, tant pis, je vais vivre chez les ennemis, je vais vivre chez les païens, je vais vivre chez les gens qui n'ont rien en commun avec moi. Peut-être que ce roi qui me persécute ne pourra pas me tuer, ne pourra pas m'atteindre. Alors on ne sait pas si le psaume 13, qui va être notre méditation aujourd'hui, est inspiré de ce fait-là. On pourrait aussi se rappeler que David a vécu un temps de suicide avec son propre fils, Absalom. On ne sait pas. Mais en tout cas, le psaume 13, que vous avez ici, est typiquement ce psaume qui nous parle de l'amertume et qui va vers la joie. Il est contextuel puisque c'est un psaume de David. Dans quel contexte exactement il a été écrit, mais en tout cas, on ne le sait pas, mais en tout cas, on devine très facilement que c'était une situation très complexe pour David. Et elle nous inspire aujourd'hui dans ce thème de l'Église persécutée. Elle nous inspire aussi dans notre propre vie. Comment on peut passer de l'amertume à la joie? Donc nous allons lire ensemble, chef de cœur, psaume de David, et nous disons, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Et chaque jour, le chagrin de mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai emporté sur lui, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse, si je vacille. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité, et mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut, je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Amen.
Amen.
Waouh! Très dichotomique, hein, ce passage. Hein. D'un côté, on a l'abattement, et de l'autre côté, on a la joie, je chanterai pour l'Éternel. On pourrait diviser ce psaume en trois grandes parties que nous allons voir ensemble. Et la première partie, c'est jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand tu détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Et chaque jour, le chagrin au cœur, et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Voyez combien de fois David dit jusqu'à quand? Exprime ce désarroi de dire je n'en peux plus de ce temps qui passe et chaque fois je suis dans le même état. David exprime clairement sa souffrance et il n'a pas peur de le faire. Dans ces trois premiers versets de l'expression jusqu'à quand, elle marque ce désarroi, elle marque aussi sa déprime face à sa situation personnelle. D'ailleurs, on sent que la première chose qui inquiète David, hein, ce jusqu'à quand, c'est sa relation avec Dieu. Ce sentiment que Dieu l'a oublié. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Ne suis-je pas ton ouais? Ne suis-je pas celui que tu as choisi? David considère également qu'il est privé de la faveur de Dieu. David s'inquiète en premier lieu de sa relation avec Dieu. Pourquoi il m'arrive tant de douleurs et tant de mal? Et Seigneur, mais c'est pas normal. Je ne devrais pas ressentir ça, je suis ton enfant. Il est plus que naturel, quand nous vivons des temps d'épreuve, et je suis sûr que certaines personnes d'entre vous avaient beaucoup vécu l'épreuve, peut-être, vous vous étiez ressenti à vous dire, mais pourquoi Seigneur, je vis ainsi? Tu m'as oublié, tu ne m'aimes plus. David exprime également une âme déprimée, l'état de son cœur et de son esprit. Je ne suis plus en disposition, je craque littéralement, et en plus, David exprime aussi son rapport avec les autres, son humiliation, puisqu'il dit « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Voyez comment David n'a pas peur d'interroger Dieu. Je rappelais tout début que le Seigneur avait déchiré ce voile qui nous permettait de rentrer dans le lieu très saint, et dans lequel nous avions une communion. David, lui, le voile n'était pas déchiré, mais David, lui, l'avait déchiré dans son cœur, dans cette relation, dans cet appel personnel à Christ. Je veux comprendre, Seigneur. Je veux te poser la question, jusqu'à quand? Dans la souffrance, chers frères et sœurs, il est facile de se sentir seul, loin de Dieu, et surtout de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a rejeté, nous a oublié. Le mensonge que parfois nous écoutons, quand nous ne comprenons pas une situation, ce mensonge qui vient de l'ennemi et qui vous rappelle que peut-être vous ne méritez pas la grâce, que peut-être vous ne méritez pas d'être en relation avec Dieu, et qui est un mensonge. Mais le grand, la grande action que fait David, c'est qu'il ne se laisse pas abattre par le mensonge et il ose demander à Dieu. Ose interroger Dieu en le faisant appel à lui, en lui demandant « Seigneur, jusqu'à quand ?» Je t'interroge, je t'interpelle. Je citais Job tout à l'heure, qui a même demandé un médiateur. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons quelque chose qui anime parfois de l'aigreur ou de l'amertume, exprimez à votre Dieu, jouissez de ce voile déchiré pour interpeller Dieu dans vos soucis, dans vos problématiques, dans votre amertume, dans votre colère. Et puis, nous avons cette deuxième partie, intitulée comme vous l'avez ici, « Fais briller mes yeux pour ne pas m'endormir ». Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je vais emporter sur lui, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse, si je vacille. Waouh. Là, c'est plus, je me plains, mais Seigneur, je veux me rapprocher de toi, et je te prie, parce que je crois en toi, de faire une œuvre dans mon cœur. Fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Voilà le danger de l'amertume. Voilà le danger de notre sœur Louise, si elle perdure, si elle ne crie pas à Dieu, si elle ne cherche pas Dieu de tout son cœur, va rester accrochée, va rester enfermée dans son amertume. Est-ce que vous connaissez l'effet tunnel? On l'a tous expérimenté. Ce côté, ce phénomène où on est dans une problématique qui envahit nos pensées et nos émotions. Et en réalité, on ne sort pas de cet effet tunnel. Nous croyons avec prétention avoir la solution à un problème. La solution, elle est terrible. Ayouba, lui, s'est étrangé. Et parfois, on se dit, je vais aller dans cette direction-là. Parce que je sais que c'est la meilleure, c'est ma pensée. Mais je ne suis plus en relation avec Dieu. Pour cause, je ne crie pas à Dieu. Et je ne dis pas à Dieu, Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. L'amertume est un poison qui envahit notre cœur, qui prend racine dans notre cœur. Elle ne fait pas que détruire votre propre personne au travers de la colère, au travers de différentes pensées négatives. Elle s'attaque aussi avec votre relation de couple. Je l'ai expérimenté. Il y a de ça pas mal de mois maintenant où ma femme a crié d'arrêter et de sortir de mon tunnel. cette amertume peut briser votre vie de famille, elle peut briser votre relation avec vos enfants, elle peut briser votre relation avec vos amis, elle peut briser également votre contexte professionnel, votre relation avec vos collègues, et elle peut également aussi tout simplement briser votre vie d'église. Combien de gens avons-nous pu voir, rencontrer dans des églises remplies d'amertume qui sont parties? Combien de brisures a-t-il pu y avoir dans les églises à cause de gens animés par l'amertume? Nous ne posons aucun jugement, que la miséricorde de Dieu soit sur eux. Alors voilà que David, il demande et il réclame, Seigneur, réponds-moi. Moi, je t'interpelle. J'ose te dire jusqu'à quand, mais Seigneur, réponds-moi et fais briller mes yeux. Dans le verbe, le mot briller en hébreu signifie resplendir, montrer sa faveur. Autrement dit, faire briller Dieu dans notre cœur, nous faire resplendir. Telle une action de l'Esprit Saint, David réclame que l'Esprit Saint vienne dans son cœur, non plus communiquer les pensées charnelles qui plongent David dans l'amertume, mais de communiquer les pensées divines en vue de sortir là-dedans. Chers frères et sœurs, la parole, elle est remplie, bordée de magnifiques et de merveilleux conseils, d'inspiration divine, que l'Esprit Saint a envie d'animer dans votre cœur, peut-être pour que nous sortions de l'amertume. L'évangile de grâce de Jésus-Christ est la première source qui nous fait sortir de l'amertume. Quand je refuse de pardonner à quelqu'un alors que c'est un commandement de Dieu, la grâce de Christ sur ma vie m'oblige à réaliser le péché de mon frère, de ma sœur, de la personne, et d'aller faire miséricorde à cette personne. Peut-être parce qu'elle n'a pas une pleine révélation de Dieu, peut-être qu'elle ne connaît pas Christ, mais moi je le connais. Et si Christ, dans mon état, a sauvé ma vie malgré mon état de pécheur, je me dois aussi de communiquer la miséricorde à mon prochain, quel qu'il soit. David a la meilleure des réactions. Il demande à Dieu et il dit, Seigneur, avant toute chose, je veux sortir de mon amertume et j'ai besoin de toi. Toute espérance charnelle de sortir d'une situation ne le permettrait pas, sauf si elle est accompagnée de Dieu. J'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Sébastien Korn, chanteur du groupe Impact. Si vous connaissez ce monsieur, vous l'avez vu ou vous le connaissez, très costaud. Très très costaud. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais il a Messi. Et puis drôlement. Pas mal. Et je vous avoue, si vous me voyez, que je ne vous cache pas que je l'aime bien. Ça va, c'est quand il y a quelque chose d'intéressant. Il est allé voir un psychologue. Il avait besoin de briser cet aspect émotionnel qui ne sortait pas de lui. Qui, voilà, n'arrivait pas. Et un jour, allant voir les psychologues, il a fait une réalité sur sa propre vie et il a explosé en sanglots. Et il dit, c'est pas le psychologue qui m'a fait exploser en sanglots. C'est l'Esprit Saint qui m'a révélé la réalité de mon état et qui m'a amené à briser ce nœud émotionnel. L'Esprit Saint a dénoué ce nœud spirituel qui me retenait captif. Et toute sa vie a découlé dans son alimentation et dans son bien-être. Voyez comme nous devons attendre et espérer que l'Esprit Saint touche nos cœurs et nous délivre. Mais faut-il encore entrer dans la disposition de vouloir s'en sortir et d'avoir envie de cette démarche et de oser demander à Dieu et de ne pas se laisser envahir par la réponse de l'ennemi, Dieu ne t'aime pas. D'ailleurs, Job, on sait pourquoi il était affligé, et Job pensait que Dieu ne l'aimait pas. Et il avait des amis pour le lui rappeler, il a dû forcément faire quelque chose de mal. Et bien sûr, ce n'était pas le cas. Alors voici que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous dit la parole, nous dit Paul en Éphésiens, et que nous devons combattre les dominations, les esprits. C'est exactement la même chose que dans la persécution. Nous ne combattons pas les persécuteurs, nous ne sommes pas contre les persécuteurs, mais nous sommes pour Christ, et que Christ fasse une œuvre dans les cœurs et dans les situations. Et puis, troisième point de David, Notre foi triomphe de l'abattement. Moi, j'ai mis ma confiance en ta bonté, en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Waouh, quel contraste avec les premières lignes. Une libération. Alors, on pourrait se dire, un peu humoristiquement, David a écrit les deux premières parties, puis il a ouvert le tiroir, il a mis dans son tiroir, et puis 5 ans après, je caricature, il est revenu, il a ressorti son psaume, et puis il a écrit la fin, quand son problème a été résolu. C'est faux. Ce psaume a été écrit d'une seule traite. À l'instant même, s'il a mis 10 minutes, ça s'est écrit en 10 minutes. Ça veut dire que dans cette dernière partie où il dit « J'ai mis ma confiance en ta fidélité, j'ai de l'allégresse dans ton salut et je chante pour toi, Seigneur. » David est toujours dans son problème. Il est toujours dans son épreuve. Il est même encore toujours dans son amertume. Waouh ! C'est une confiance en la bonté sans faille de Dieu et en sa fidélité en tout temps, car Dieu est bon en tout temps. Dieu ne fait pas David ne fait pas une occasion de son épreuve pour renier Dieu, pour lâcher Dieu, ou pour attendre que Dieu réponde à son problème. Une question se pose dans notre propre vie chrétienne. Est-ce que nous aimons Dieu pour ce qu'il est ? Créateur du ciel, de la terre, de l'univers, créateur du salut, ou est-ce que nous l'aimons pour ce qu'il donne ? Nous avons une bonne nouvelle, et nous la connaissons, nous la célébrons. Dieu nous a donné le salut par son Fils Jésus. Et c'est vrai que nous l'aimons pour ce qu'il nous a donné, le salut, le sacrifice à la croix, la rédemption. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce salut fait partie des merveilleux attributs de Dieu. Nous l'aimons pour ce qu'il donne, oui, le salut. Mais sommes-nous rassasiés de ce simple fait ? Quand je suis dans l'épreuve. En aimant Dieu pour le salut qu'il nous offre, nous l'aimons tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire que j'ai le salut. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'être dans l'épreuve. Et nous voyons que David, il loue et il reconnaît son Dieu avant d'avoir reçu quoi que ce soit de lui. Si notre reconnaissance, notre louange tout à l'heure, elle est fondée sur la réponse de Dieu à nos prières, nous avons un problème. Je le répète, si notre reconnaissance elle est fondée sur la réponse de Dieu à nos prières, nous avons un problème. Et il nous faut le remettre à la croix. Parce que ça veut dire que je n'aime pas Dieu pour qui il est, mais je l'aime pour ce qu'il va faire dans ma vie uniquement pour ça. Mais nous devons être, chers frères et sœurs, pleinement convaincus que Dieu nous aime, nous devons le louer en toutes circonstances, et c'est là le cœur des hommes et des femmes pleinement acquis à leur Sauveur et à leur Seigneur. Et la Seigneurie de Dieu dans nos cœurs, c'est cette capacité que a David, qui a été donnée par l'Esprit Saint, de dire « Seigneur, je n'en peux plus de mon épreuve, j'ai besoin que tu viennes éclairer ma situation, mais quand bien même, je veux quand même te louer, te célébrer pour qui tu es. » Et ma circonstance n'est pas une occasion pour te renier, n'est pas une occasion pour t'oublier. Alors, bien sûr que dans l'affliction, comme Louis, il y a un temps pour pleurer, un temps pour ne pas comprendre. On ne réclame pas que Louis a pris ses larmes et fait la même proclamation de David. Et bien sûr, il faut du temps pour guérir. Il faut des frères et sœurs aimants. Il faut une église. Il faut une relation, il faut une Bible. Telle est l'œuvre de Portes Ouvertes, de pouvoir offrir aux frères et sœurs des frères et sœurs pour être accompagnés, des pasteurs qui soient formés, des Bibles, tout simplement, qui est la nourriture qui nous permet de connaître l'évangile de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, je vais me permettre, pour avoir un petit peu l'heure quand même, pour un petit peu de temps, faire une petite conclusion. L'ennemi souhaite nous faire oublier les promesses du Seigneur et tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est son œuvre. Il veut nous garder dans cet état de souffrance, car il sait que la souffrance mène vers l'amertume, la colère, le désespoir. Et il sait aussi que ces états nous plongent dans l'inaction et que par définition, ils nous empêchent d'agir pour le Seigneur. David, dans ce psaume 13, nous offre toute la clé de notre attitude envers lui. confiez-vous. Une bonne relation avec quelqu'un, c'est aussi exprimer envers lui ce qu'on ne comprend pas. Certains d'entre vous, vous êtes mariés, et quand il y a quelque chose chez votre époux ou votre épouse que vous ne comprenez pas, vous dites « Je ne comprends pas, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me dis ça ?» Ça s'appelle la communication, c'est la base. Malheureusement, on sait que c'est parfois le premier point qui pose problème dans une relation de couple. Mais ça marche avec l'amitié, ça marche surtout avec Dieu. Jésus, je ne suis pas parfait, je ne suis pas toi, Seigneur, mon Dieu, sinon je résoudrai les problèmes. Seigneur, je suis rempli de faiblesse, j'ai besoin que tu viennes me parler. Je te pose la question, Seigneur, jusqu'à quand cette situation va continuer? Mais ce psaume nous montre aussi de toujours demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre situation, non pas comme nous la voyons, ou par prétention ou par orgueil, on croit savoir mieux, mais de dire, non, Saint-Esprit, je te laisse la place de me guider dans cette situation. Toi, tu sais mieux que moi. Et puis, cette promesse dans laquelle nous jouissons aujourd'hui, la croix accomplit toute notre délivrance, c'est là notre joie. Quoi que nous soyons affligés, nous avons cet horizon, cette espérance que nous ne sommes pas des citoyens de la terre, nous sommes des citoyens du ciel. Et que notre regard ne se porte pas sur ce qui se passe sur terre, mais il se porte sur ce qui se passe au ciel, sur ce qui se passera après notre départ de cette terre. Et c'est là cet héritage qui ne peut se corrompre ou se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Chers frères et sœurs, je conclurai sur ce parti message, avant quelques annonces. N'attendons pas la réponse de Dieu, mais croyons à la réponse de Dieu. C'est bien mieux. Et vous verrez que quand la réponse sera donnée de la part de Dieu, vous serez animé d'une joie encore plus incroyable. Vous aurez gagné en maturité. Et je parle plus à la jeunesse, mais vous aurez gagné en maturité. Vous aurez gagné la compréhension, vous serez rapproché. Non, soyez comme l'aigle. Au moment de l'épreuve, déployez vos ailes de la foi, croyant la réponse de Dieu. Et vous surpasserez. Parfois même, vous serez surpris de savoir que peut-être la réponse que vous aviez depuis le début, elle était sous votre nez, mais Dieu a supporté vos faiblesses pour vous amener à cette libération, à cette délivrance. Et n'écoutez pas l'ennemi. J'aimerais vous encourager fin octobre, donc du 26 au 27 octobre 2024, à nous rejoindre à la Marie-Lévis à Paris. Alors je sais qu'au bal de Paris, c'est pas la porte à côté, dans lequel il y aura 6 orateurs qui vont aussi témoigner de leur contexte de situation de persécution, tel que je l'ai fait avec Louis ou d'autres, qui vont aussi nous montrer comment le Seigneur les a guidés par l'Esprit Saint pour se dégager d'une situation. C'est un grand moment d'édification qu'on vous propose. Et c'est donc la date du 26 et 27 octobre. Voilà, il y aura également Dan Luten et Marielle qui seront là pour animer un temps de louange au cours de ce grand week-end, qui est pour nous un grand week-end, vous comprenez. Également, je voudrais vous rappeler l'abonnement au magazine. Hein, c'est ce lien que nous vous proposons pour rester en contact avec les témoignages, avec l'Église persécutée. Comme je le disais à l'introduction tout à l'heure, hein, nous avons besoin de ces 6 personnes sur 7 qui prient pour la personne qui est persécutée. Nous sommes un corps. Et vous avez dans ce magazine le calendrier de prière, l'actualité, les reportages. Et c'est une fois par mois, vous recevez votre boîte aux lettres. Et c'est uniquement 5,50€ le premier abonnement, les 1 an d'abonnement. Ce n'est pas 5,50€ tous les mois, c'est 5,50€ une fois, une seule fois sur 1 an. Et si jamais vous ne vous abonnez pas l'année d'après, ce n'est pas grave, on continue quand même à vous l'envoyer. Alors pourquoi on le fait payer du coup? Parce que la loi nous interdit de donner un magazine rapidement, il faut qu'il y ait une transaction financière. Donc, voilà, je voulais vous inviter au-delà. Ce que vous pouvez déjà faire, à vous abonner et à rester connecté avec l'Église persécutée. Dernier week-end, dernier samedi, le samedi 28 septembre, nous faisons un challenge à Marseille qui aura lieu, je ne me souviens plus du parc, c'est pas loin de... Comment? Non. Comment? Non. C'est à Marseille, c'est... Ah, Passerie, exactement, voilà. Merci beaucoup d'être venu à mon secours. Campagne Passerie, effectivement, donc le matin à partir de 9h, Amazon Challenge pour construire, pour pouvoir financer un centre de soins post-traumatiques en Éthiopie. Centre de soins post-traumatiques, pilier de la résilience, pour prendre en charge les frères et sœurs, dans lequel donc, on demande juste une participation de 30 euros pour participer à cette course ou à cette marche. Et ce n'est pas une course, ce n'est pas les JO, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est de venir, de prendre un moment, de marcher, de courir avec eux. Mais je voudrais vous inviter simplement à venir ce jour-là, à peut-être vous renseigner sur notre page internet pour vous inscrire et tout simplement payer ces 30 euros ou essayer de collecter plus de 30 euros. Et si vous pouvez encore collecter davantage au travers de ce challenge, n'hésitez pas. Et si jamais vous ne voulez pas marcher, vous ne voulez pas courir avec nous, je voudrais vous inviter à venir juste vous tenir compagnie. Voilà, hein, c'est pas très très loin. Donc voilà, je vous en fais l'annonce. Donc c'est le samedi 28 septembre, hein, dans deux semaines maintenant. Campagne passerait à 9h du matin, hein, à partir de 9h du matin. Les gens commencent à venir, donc venez, ne serait-ce que vous soutenir. Et si j'oublie votre visage, hein, venez me rappeler, quand je serai là, t'étais passé au bagne. Amen. Voilà. Voilà. Et puis, peut-être on pourra aussi prier. Nous avons une campagne de prière qui a été lancée l'année dernière, qui va durer 4 ans, donc qui durera, il reste encore 3 ans de campagne de prière, dans laquelle, là aussi, nous ne prions pas pour que la persécution s'arrête, mais nous prions pour que Dieu se glorifie au travers de cette persécution-là. Et vous aurez à l'entrée des petits signés pour cette campagne de prière, Afrique unie contre la violence, dans laquelle je voudrais vous inviter à scanner le QR code et à vous inscrire à cette campagne. Et dans les magazines, vous recevrez ce petit logo, hein, que vous aurez, Afrique tous unis contre la violence, avec vous aurez des témoignages, et nous voyons comment les prières agissent déjà pour soutenir nos frères et sœurs qui sont persécutés. Donc dans ce thème de l'amertume à la joie, qui est un défi pour nous d'amener les gens de la souffrance au champ, on pourrait juste, donc il me reste 5 minutes, prier en faveur de tous nos frères et sœurs qui, peut-être en Afrique particulièrement dans cette campagne, sont actuellement dans la souffrance. Je vous invite à courber la tête et à prier. Seigneur mon Dieu, nous te prions et te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as montré au travers de ta parole comment tu avais déjà donné ta solution, donné cette espèce de processus dans lequel nous venons à toi. Oui, tu permets que, Seigneur, nous puissions crier à toi, ne pas comprendre et oser te poser la question. Tu nous as montré ce matin que nos solutions charnelles ne sont pas une réponse, mais que ton Esprit Saint veut souffler en nous la réponse. Tu nous as montré ce matin, Seigneur, que nous devons te louer, te glorifier en toutes circonstances, quand les choses vont bien et quand parfois cela va mal. On va te prier, Seigneur, pour que cette réalité scripturaire que nous avons vue ce matin devienne une réalité pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le dénouement aujourd'hui au travers de la persécution. Soit parce qu'ils sont traumatisés, soit parce qu'ils sont emprisonnés, soit parce qu'ils sont menacés. Mais Seigneur, nous te prions que de venir avec ton Esprit Saint insuffler une vie nouvelle et qu'ils s'aperçoivent, qu'ils prennent la réalité, Seigneur, cette grâce magnifique dont ils jouissent aujourd'hui, de ce cadeau merveilleux que tu es dans leur vie comme tu dans la nôtre. Parce que Seigneur, n'oublions pas que nous aussi, nous pouvons être dans la souffrance. Et Seigneur, je te prie, que dans nos propres souffrances, nos propres amertumes, tu viennes les baumer, tu viennes nous encourager, tu viennes éclairer notre situation. Parce que nous voulons aussi crier à toi, nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu autant qu'à nous. Nous te prions, Seigneur, pour les frères et sœurs qui ont été traumatisés, particulièrement en Afrique. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de susciter des miracles extraordinaires encore. Nous voulons voir ta gloire se manifester au travers des hommes. Et merci, Seigneur mon Dieu, de dispenser de miracles, de choses extraordinaires dans la vie de nos bien-aimés. Seigneur, je te recommande également nos souffrances et ton intervention divine dans nos vies, nos révélations, notre travail à la parole de Dieu, notre travail dans l'amour, dans la communion fraternelle, notre travail avec ton Esprit Saint également. Accompagne-nous chaque jour de notre vie, car nous avons besoin de toi, de ta compassion, et nous réclamons, Seigneur, ta puissance dans nos vies. Seigneur, je fais cette dernière prière, si à ce moment même, il y a un frère et une sœur qui crie à toi de désespoir, qui crie littéralement jusqu'à quand je n'en peux plus, Seigneur, nous te prions en ce moment même d'aller la visiter, Nous te le demandons, nous faisons encore pour que ce frère, cette sœur soit supportée, soit encouragée, et qu'elle aussi, elle passe de l'amertume à la joie, ou qu'elle passe du chagrin au chant d'allégresse. Seigneur mon Dieu, nous te recommandons toutes ces choses. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.